Je vous prie tout d'abord de m'excuser de faire d'intervenir comme ça un peu de manière brutale et de faire violence à l'ordre du jour.
Non, non, c'était prévu
parce que en vous écoutant avec beaucoup d'intérêt, j'ai l'impression d'opérer une espèce de déplacement temporel et thématique un peu brutal. Donc je vous prie de m'en excuser. Alors en fait, je vais.
C'était prévu, c'était ce qu'on souhaitait justement.
Nous allons nous déplacer. En fait, initialement, le titre que j'avais proposé et que j'ai retrouvé donc dans la perspective de ce matin, c'était sociologie de l'immigration. Et à vrai dire, je trouve que c'est un peu encéphalogramme plat. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt de garder un tel titre. Alors peut-être pour proposer une entrée en matière. Je vais plutôt me centrer sur une sociologie de l'autochtonie. Ça va peut-être vous sembler étrange. Autrement dit, je prends les choses à l'envers et je vais essayer de m'interroger sur ce que c'est que le semblable, l'autochtone, celui qui est dans un lieu bien précis, qui s'y trouve enraciné et qui forge en quelque sorte son imaginaire à un moment donné. Alors, pour justifier ça, en examinant à la fois les frontières internes et externes de cette réalité, je vais me permettre de faire en introduction un certain nombre de citations d'un document que j'ai eu hier, mais qui est évoqué aujourd'hui largement dans la presse, ça va peut-être pas durer, qui est le collectif Assez le feu, qui s'est constitué au lendemain des émeutes et qui donc a constitué un cahier de doléances. Et en fait, j'en ai eu la synthèse parce que je me trouvais par hasard dans la rue au moment où ils le distribuaient hier près de l'Assemblée nationale. Donc, j'avais essayé de l'avoir sur Internet, c'est pas possible pour le moment, je vous confirme, ça m'a été dit. Et donc, je trouvais extrêmement intéressant de voir comment eux mettaient en évidence un certain nombre de questions qui vont nous intéresser ici. Alors, tout d'abord, dans le chapitre, et je dis bien dans le chapitre discrimination raciste, sous la plume donc des rédacteurs de cette synthèse, ils disent qu'il faut développer à l'école des apprentissages valorisant les différentes cultures, notamment au travers de l'art, de la littérature et de l'histoire. Les auteurs maghrébins et africains devraient faire partie des programmes de français, par exemple. Et un peu plus bas, toujours dans le même chapitre, en termes de propositions, enseigner une histoire avec un grand H, partagée et plus juste, sur la colonisation et les traites. Donc, ça mériterait sans doute une explication. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a bien un chapitre éducation, qui vous intéressera sans doute plus directement. Et dans ce chapitre, en fait, il y a un moment donné, dans le cadre des constats, quelque chose qu'il faut souligner, enfin qui ne m'a semblé pas inintéressant. Ils indiquent que pour une part minoritaire mais significative des personnes qui se sont exprimées dans le cadre de ces cahiers, le rapport à l'école est très hostile et le sentiment que l'institution est accusatrice et stigmatisante envers les parents, qu'elle n'a jamais cherché à comprendre les problèmes de l'enfant ou de la famille, ou encore que les enseignants ou l'institution pratiquent la discrimination raciale. Donc ça, il y a comme un effet de miroir entre le chapitre sur la discrimination raciale et celui sur l'éducation. Et puis, dernier point, valoriser dans la programmation des grandes institutions culturelles françaises. Alors, la culture, en fait, est dans l'éducation, Comédie française, BNF, etc. Les arts et la culture, la culture de tous les pays et tous les peuples, notamment ceux qui ont fourni de nombreux migrants en France. Donc, c'est un extrait très partiel, mais qui me semblait intéressant dans la mesure où il recoupe cette question du traitement de la mémoire et de la manière dont elle va, à un moment donné, s'inscrire dans un imaginaire collectif qui est partagé ou qui n'est pas partagé, d'ailleurs. Alors, pour ma part, je me centrerai dans mon propos, puisqu'il va falloir qu'il soit rapide. Je me centrerai, merci, dans mon propos sur les raisons pour lesquelles une sociologie de l'autochtonie devient aujourd'hui nécessaire en France. Alors, s'il fallait donner une définition de cette sociologie, sans doute pourrait-on partir d'une idée qui a déjà été évoquée, que vous connaissez tous, qui est celle de l'origine. Puisque il y a dans un vocabulaire relativement routinier aujourd'hui au sein de l'institution scolaire, mais pas seulement, il est d'usage de définir certains élèves en fonction de leur origine. C'est-à-dire de dire, bon, tel élève a... Et en général, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que s'opère donc une partition tout à fait étrange entre des élèves qui auraient une origine et d'autres qui n'en auraient pas. Je l'ai vu très concrètement à l'œuvre lors d'une session de formation qui m'avait été proposée par l'IEFM de Créteil, et où je rencontrais des PEP 4, vous savez, les enseignants qui sont directement affectés dans le cadre des EP et qui suivent donc, enfin qui ont un accompagnement très renforcé, on va dire, pour les sécuriser, je ne sais pas comment on peut dire ça, sur leur terrain d'enseignement. Et donc, l'essentiel des enseignants qui étaient présents dans cette formation, il y en avait beaucoup qui enseignaient soit l'histoire, soit l'EPS. Il n'y avait pas beaucoup d'enseignants de français ou d'autres matières, en fait. Et donc, c'est vrai que j'ai abordé les choses de manière un peu brutale, parce que la demande explicite des enseignants, c'était « est-ce que vous pouvez nous parler des conditions d'émergence, de formation, de ses origines, qu'est-ce qui les explique ?» Et en fait, je voyais poindre derrière tout cela un discours profondément essentialiste qui consistait à dire « il y a bien quelque chose de l'ordre d'une essence originelle qui continue en quelque sorte à se déverser dans ses corps, dans ses imaginaires, dans ses pensées, et qui donc est littéralement sédimenté et trouve des espaces de reproduction dans le cadre scolaire. » Alors, j'étais complètement décalée, on va dire, et donc je leur ai proposé de ne pas réfléchir. Je voulais pas leur faire de l'anthropologie du Maghreb, en disant « bah, je vais vous expliquer pourquoi ils ont des origines ». Et je leur ai dit « bah, écoutez, on va peut-être partir d'un postulat, c'est que vous avez une origine comme eux. » Et que donc, il serait intéressant de savoir en quoi est-ce que l'interaction avec certains élèves, donc, puisque vous dites que tous ne sont pas concernés, certains élèves vous posent problème. Et en fait, j'ai eu une réaction d'hostilité de la part des enseignants, mais vraiment d'hostilité. C'est-à-dire qu'ils ont totalement refusé de rentrer dans la démarche que je proposais. Et ils n'ont pas cessé, soit de bavarder dans un coin, vous savez, c'est un truc classique dans les formations, mais c'est le cas aussi dans les cours, hein. Autrement dit, ils se sont comportés comme des élèves. Ils sont mis à bavarder dans un coin pendant que j'essayais de rabattre, enfin de, voilà, je tirais là mon fil et j'essayais d'aller jusqu'au bout de mon propos. Ça n'a absolument pas marché. Et puis ceux qui ont quand même maintenu leur attention et qui ont accepté d'aller jusqu'au bout avec moi n'ont cessé de me dire qu'en fait, je ne comprenais absolument pas ce qu'ils vivaient sur le terrain, que je ne leur apportais aucune réponse et que du coup, ils se demandaient bien pourquoi ils étaient là. Alors, il y avait ceux qui avaient voté non en parlant et ceux qui votaient non en disant « non, vous ne servez à rien ». Donc, j'ai jamais plus été proposée pour cette formation parce que visiblement, je ne donnais servi strictement à rien. Alors, c'est pas juste anecdotique, ça a été pour moi assez troublant. D'abord parce que je vivais ça un peu comme un échec, et puis aussi parce que je me disais du coup, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accepté que je les mette en équivalence, et que je dise finalement, effectivement, la République c'est aussi l'égalité, si je puis dire. Et donc il y a bien nécessité à un moment donné de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que certains élèves dans le système scolaire peuvent faire l'objet d'un traitement particulier, un traitement en termes d'origine. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, surgit la question de l'autochtonie, c'est-à-dire quelque chose qui serait différent de l'autochtonie, quelque chose qui serait radicalement insoluble dedans, qui serait inassimilable. Et là, on retrouve toute une thématique que vous connaissez bien, qui est une thématique qui n'a cessé d'être problématisé, y compris dans les travaux et dans les recherches universitaires, hein, je veux dire les travaux de recherche, la question de savoir pourquoi est-ce que ce vocabulaire persiste, et finalement, force est de constater qu'effectivement, il appartient bien à une histoire, à un imaginaire partagé, qui est celui du séparatisme, qui est celui d'espaces qui sont ségrégés, qui sont délibérément amenés à ne pas se rencontrer. Alors, pour que nous ayons peut-être quelques éléments de réflexion là-dessus, je voudrais vous proposer la manière dont je construis en fait maintenant ma réflexion sur l'immigration, et notamment sur l'immigration, ce que certains commencent à appeler l'immigration postcoloniale, qui est particulièrement définie en termes d'origine, précisément. Alors, l'immigration postcoloniale, on pourrait dire qu'elle intervient dans un... Elle émerge historiquement, me semble-t-il, à partir de la fin de l'immigration légale, c'est-à-dire de 1974-75, lorsque les flux migratoires qui avaient fait l'objet d'une gestion administrative assez régulière depuis à peu près un siècle, commencent à s'estomper et sont politiquement interrompus. Alors non pas que l'immigration postcoloniale ait commencé à ce moment-là. En fait, elle a commencé bien avant et elle s'est même en quelque sorte superposée à d'autres immigrations. Mais elle va prendre un caractère de visibilité tout à fait particulier à ce moment-là, parce que il s'agit dès lors d'entériner une réalité qui jusqu'alors n'avait pas été entérinée, qui était le passage que l'on connaît bien aujourd'hui en histoire de l'immigration, d'une immigration tournante qui avait vocation à retourner par une immigration de peuplement. Or, cette immigration de peuplement, elle va matérialiser un phénomène qui est déjà présent, et qui est présent dès la fin de l'Empire colonial français, qui ne prend que l'exemple de la France, hein, qui est la fin de l'exotisme, ce qu'on pourrait appeler la fin de l'exotisme, et qui interroge effectivement l'autochtonie. Pourquoi cela? Parce que, en fait, les immigrants qui sont arrivés jusque dans les années 50, mais on sait très bien que l'immigration en provenance des colonies a commencé avant, cette immigration, en fait, elle est relativement limitée et elle a une très faible visibilité. Elle est même, d'ailleurs, un des modes de traitement et de gestion de cette immigration, c'est de la rendre totalement invisible dans l'espace public français, y compris en la gérant au plus près de ses objectifs qui sont strictement économiques. Elle est là simplement pour assurer, effectivement, alimenter les flux de main-d'œuvre. Or, dans le même temps, où cette immigration commence et où elle est en quelque sorte contenue dans un espace extrêmement limité, et aux marges, selon cette figure assez classique qui est celle d'hommes qui longent les murs pour aller travailler, qui effectivement ne s'engagent pas dans l'espace public, ne sont pas considérés comme des citoyens, puisqu'effectivement ils sont encore sujets de l'Empire. Dans le même temps, effectivement, ce qui est en train de croître et d'atteindre une apogée, c'est un imaginaire colonial qui fonde une culture, en fait, une culture qui est fondée sur l'absence de l'autre. C'est-à-dire sur le fait que l'autre, celui qui n'est pas autochtone, est absent de l'espace de la République, qui est l'espace strictement hexagonal, hein, puisque la République, on le sait, ailleurs, est coloniale et qu'elle n'établit pas une égalité des statuts, précisément parce que les autres ne sont pas citoyens. Donc il y a un régime séparé, on pourrait dire, qui est d'un côté un régime de l'autochtonie qui est celui du citoyen de la République, et un régime de l'altérité qui est celui de l'autre absent, qui est sujet de l'Empire. Or, ce qui introduit en quelque sorte un trouble et une déstabilisation profonde, au-delà de ce que l'on sait classiquement sur la période de décolonisation, c'est que la fin des colonies signe la fin de l'exotisme, c'est-à-dire la fin du maintien de l'autre à distance, absent, invisible, et empêché d'interagir en quelque sorte physiquement avec ce qui constitue la République, c'est-à-dire ses citoyens. Dans ce contexte-là, dans cet effritement, cet estompement, voilà, c'est pas quelque chose de brutal, c'est quelque chose qui va disparaître par lambeaux petit à petit, selon un processus très lent, dont nous connaissons encore les effets aujourd'hui. Nous sommes encore dans ce processus de fin de l'exotisme. Et en raison même de sa longue durée, peut-être peut-on faire l'hypothèse effectivement qu'il traduisait finalement une très grande puissance d'un imaginaire, du semblable, de l'autochtone, de ceux qui partagent une même histoire, une même origine, et une origine qui a un fondement d'abord et avant tout politique, et non pas un fondement ethnique, puisque c'est ce type de position qui philosophiquement est depuis la... Cette fin de l'exotisme s'introduit, en fait, se métabolise très lentement dans l'ensemble de la société française et va en quelque sorte être particulièrement accélérée par la visibilité croissante, non pas des migrants qui viennent des colonies, mais de leurs descendants, c'est-à-dire de ceux qui de plus en plus vont naître en France et vont donc en quelque sorte bénéficier dès leur naissance du statut de citoyen. C'est-à-dire ce statut qui n'a pas été octroyé à leurs parents. Ça sera sans doute intéressant de voir les différences de statut des différents migrants qui viennent des anciennes colonies et de constater effectivement qu'il y avait toujours eu un statut d'exception, qui était lié d'ailleurs à l'exceptionnalité d'un des lieux de l'Empire, qui est l'Algérie, puisque l'Algérie était un département français. Or, le droit qui va régir l'accès à la nationalité des Algériens n'est pas le même droit que celui qui régit l'accès à la nationalité des autres descendants de migrants coloniaux. Donc, dans ce mouvement extrêmement lent, l'émergence de ce qui va devenir ensuite la seconde génération, ou ce qu'on va appeler aujourd'hui, et là j'insiste sur les mots parce que je pense qu'il serait intéressant de les interroger, ce qu'on appelle les jeunes issus de l'immigration, ce type d'expression a une vertu très importante, c'est qu'elle elle l'efface complètement, elle gomme la dimension coloniale de la migration dont on parle. Seule est considérée la dimension migratoire, et ce qui est toujours ignoré, c'est le caractère colonial des migrations dont on parle. Donc cette fin de l'exotisme, en fait, est en quelque sorte parachevée et exposée dans un espace politique qui lui-même est en train de s'interroger sur les dimensions de son autochtonie par les descendants de migrants qui viennent des anciennes colonies et qui, effectivement, constituent une part importante ce qu'on appelle maintenant, d'ailleurs c'est une expression que j'ai trouvée dans cette synthèse, les nouveaux Français. Les nouveaux Français sont les descendants des sujets coloniaux. Donc il y a là quelque chose qui, de fait, nous amène à reconfigurer notre réflexion sur ce que peut être une connaissance plus claire du fait migratoire aujourd'hui, de ce que peut être aujourd'hui effectivement un imaginaire partagé. Or, cet imaginaire partagé, effectivement, il ne peut éventuellement émerger que dans un contexte où les origines des uns et des autres ne sont pas hiérarchisées, mais sont précisément considérées comme étant le produit, l'effet d'un processus extrêmement complexe et extrêmement long, qui n'est pas achevé d'ailleurs, et qui est en train de se prolonger jusqu'à aujourd'hui. Donc cette première approche en termes de fin d'exotisme permet effectivement de peut-être introduire un point de vue, un angle de perception qui jusqu'alors n'avait pas été rendu possible dans la mesure où il y a précisément ce régime de séparatisme qui continue à être extrêmement explicite. Alors l'autre thématique que je voulais développer à partir de ça, c'est qui parle d'autochtonie, en fait, cette idée de l'autochtonie, cette idée d'un être ensemble à un moment donné qui se développe dans un contexte social particulier, qui est effectivement un contexte qui est défini en termes politiques aussi, nous amène à interroger un autre terme qui a eu une grande notoriété au cours de ces 2-3 dernières années et qui est lui aussi très ambigu, qui est le terme d'indigène. Et non pas qu'il ait été inventé avant-hier, n'est-ce pas ? Il a eu un long usage, un usage parfaitement répertorié et cadré, qui était celui, effectivement, de désigner les sujets de l'Empire dans le cadre de l'administration coloniale. Donc, c'était pas un terme qui, pendant une longue période, était particulièrement connoté. Je pense que ce serait intéressant de partir de l'hypothèse qu'il n'était pas connoté. Il établissait simplement une distinction dans les statuts et il permettait, effectivement, de, comme diraient les philosophes, mettre le monde en ordre, hein, c'était une forme de mise en ordre du monde, à partir des catégories du droit et des catégories de la gestion politique. Hein, c'était, je ne pense pas qu'il faut lui donner une autre connotation. La question de la péjoration de ce terme, c'est la nôtre, autrement dit. C'est celle qui, aujourd'hui, nous amène à reprendre cette expression-là et à lui attribuer un certain nombre de connotations, à la lester cette expression. Hein, ce mot est lesté d'un certain nombre de dimensions qui n'étaient sans doute pas à l'œuvre dans l'ensemble des interactions qui se déroulaient dans l'Empire. Alors pourquoi est-ce que ce terme aujourd'hui est particulièrement lesté? Pourquoi est-ce qu'il il est connoté péjorativement? Et pourquoi est-ce qu'il, en quelque sorte, il révèle sa polysémie? Alors, je pourrais sans doute souligner, mais vous avez déjà une idée, effectivement, du parallèle qu'on pourrait établir entre autochtones et indigènes, parce que finalement, ce sont les deux mêmes, à partir d'étymologies différentes, au fond, ça recouvre à peu près le même type de notion, c'est-à-dire qu'il y a bien, dans les deux cas, une définition qui renvoie à des populations qui sont définies par leur appartenance à un espace géographique, linguistique, juridique particulier, et que dans un cas effectivement ça définit un statut qu'on va pouvoir appeler à partir des notamment des études postcoloniales un statut subalterne, hein, donc par un travail de rétrospectif, de réinvestissement, de réexamen de cette réalité-là à partir de catégories contemporaines, effectivement il y a bien là quelque chose de l'ordre d'une définition d'une population ou de groupe subalterne. Dans l'autochtonie, il n'y a pas de dimension subalterne. Un autochtone n'est pas quelqu'un qui est considéré comme inférieur. Il n'est pas défini par un statut juridique qui, en quelque sorte, diminuerait sa capacité au sens juridique, qui, en quelque sorte, le conduirait à devoir assumer une position à laquelle il est contraint. Il n'y a pas de logique d'oppression dans la notion d'autochtonie. Alors que, effectivement, de plus en plus, l'indigène est considéré comme quelqu'un qui a été opprimé. Dans cette circulation entre les deux termes, entre autochtonie et indigéna, entre autochtone et indigène, on pourrait imaginer de décrire finalement une société qui, aujourd'hui, se pose la question de savoir si, face à son identité autochtone, elle ne se voit pas concurrencée par une identité indigène, en quelque sorte, qui est celle de ceux qui en font partie appellent les nouveaux français, c'est-à-dire une nouvelle forme d'imaginaire français qui n'est plus le produit chimiquement pur de la conception républicaine classique telle qu'on l'entendait, mais qui est le fruit, j'utilise le mot à dessein, de contaminations successives. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre d'interactions de plus en plus fréquentes, qui font d'ailleurs l'objet de mesures très précises, à travers notamment la catégorie du mariage mixte. Il s'agit très précisément de savoir effectivement qui sont les Français d'aujourd'hui et qui seront les Français de demain. Donc la fin de l'exotisme, en fait, conduit à ce que, symétriquement, il y ait une forme de fin de l'autochtonie, telle qu'on pourrait définir la République française telle qu'elle s'est conçue, c'est-à-dire comme effectivement une conception gauloise, comme vous le disiez tout à l'heure, dont on ne sait pas très bien jusqu'à quel point elle était pure, d'ailleurs je ne suis pas sûre qu'elle se soit, elle n'était pas, elle ne se concevait pas comme telle. Donc finalement ça serait un nouvel épisode, on pourrait dire, d'une forme d'acclimatation de tout ce qui a constitué depuis plusieurs siècles la France. Et sans doute cela prend-il un caractère un peu, un relief particulier, parce que nous sommes en train de le vivre. Mais au fond, nous pourrions sans doute trouver d'autres exemples au cours de l'histoire de ces formes d'acclimatation mutuelle, d'acculturation mutuelle, dans lesquelles des personnes qui étaient censées ne pas appartenir à l'intériorité nationale et ne pas participer donc d'un espace qui serait défini comme république. Mais c'est ce que je voulais, même pas. Je vais faire encore plus court, c'est bon. Des personnes qui n'étaient pas censées appartenir à cette intériorité nationale définie comme l'espace de la République sont amenées à en faire partie. Donc, les questions de l'imaginaire et de la mémoire partagée dans ce contexte sont celles de savoir par quelle procédure, par quel hasard de l'histoire aussi, certains groupes finissent par faire partie de l'intériorité nationale. Autrement dit, ils passent, ils traversent ces frontières qui avaient été pendant très longtemps très clairement établies entre celui qui était citoyen et celui qui ne l'était pas, entre celui qui était étranger et celui qui ne l'était pas, et jusqu'à présent entre celui qui est immigré et celui qui ne l'est pas aussi. parce que nous avons un certain nombre de catégorisations qui ne se recouvrent pas d'ailleurs, hein, qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas équivalentes et qui toutes tracent des frontières entre ce qui constitue un imaginaire partagé, qui est aussi un espace du politique, et puis des imaginaires séparés. Voilà, donc en fait, ce sera l'essentiel de ce que je souhaitais dire. C'était beaucoup plus vous proposer, vous soumettre un certain nombre de catégories avec lesquelles j'essaie de travailler et de voir en quoi est-ce qu'éventuellement vous pouvez y retrouver là des éléments de compréhension par rapport à votre expérience et par rapport à une manière d'introduire des questions qui sont, je crois, au cœur de ce colloque aujourd'hui. Et je voudrais juste finir là-dessus. Je crois que ça n'est pas juste une abstraction. Si je voulais reprendre la question de l'origine qui avait été soulevée par les enseignants lors de cette formation en IFM, je crois qu'ils voyaient véritablement dans les élèves auxquels ils attribuaient cette question de cette réalité de l'origine, ils les voyaient véritablement comme la matérialisation, l'incarnation de ce passage d'une frontière. Ils en étaient les opérateurs physiques et aussi mentaux. Ils étaient, ce que j'appelle dans un travail que je suis en train de développer, un corps frontière. Un corps qui véritablement matérialise cette dynamique de passage d'une histoire à une autre, d'un monde à un autre. Et bien sûr, c'est une réalité polysémique. C'est à la fois le monde de l'adolescent face au monde de l'adulte, mais c'est aussi le monde de l'autre, de l'indigène, de celui qui était maintenu à distance, un monde exotique qui, en quelque sorte, vient directement et parfois aussi très brutalement interagir avec un monde de l'autochtonie qui jusqu'alors s'était pensé comme parfaitement à l'écart, à distance et peut-être même, dans certains cas, protégé contre ces incursions, contre cette pénétration tout à fait vécue parfois comme une forme d'intrusion. D'où ces termes de l'origine, en fait, qui, me semble-t-il, venaient cristalliser tout un ensemble de réalités qui étaient beaucoup plus complexes. Voilà, je vous remercie.